7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupiot.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, nous parlons du sens que nous donnons à notre travail.
Alors, le bonheur au travail, c'est une notion importante, bien sûr. Mais en même temps, c'est une notion difficile. Contrairement à ce qu'on dit dans la plupart des livres de management, le travail et le bonheur ne vont pas spontanément ensemble.
Et si nous les réconcilions justement, bonheur et travail, pour donner tort, ne serait-ce qu'un instant, à ce philosophe français, de nombreux cadres, banquiers, commerciaux, font tomber le costume pour devenir boulanger, menuisier, brasseur. Alors, que se cache-t-il derrière cette quête de sens qui passe parfois par l'artisanat, mais pas seulement? Ce changement de trajectoire est-il le privilège de salariés diplômés? Nous en parlons à l'heure des bullshit jobs, ces métiers de l'ennui qui nous font oublier pourquoi nous sommes payés tellement ils sont déconnectés de toute réalité, à l'heure aussi des crises économiques qui nous dissuadent de prendre des risques. Alors, comment avoir une relation apaisée avec son travail? Ne lui en demande pas trop justement à ce travail, et comment ne pas jalouser celles et ceux qui semblent avoir trouvé la perle rare? Ces questions, nos trois invités du jour se les sont posées, puisque, hasard ou non, elles sont toutes les trois passées par une reconversion professionnelle. Bonjour Magali Peruffini.
Bonjour.
Vous vous intéressez aux artisans, vous leur avez même dédié un livre, Nouveaux artisans, portrait d'une génération qui bouscule les codes, et un blog, Les Mains Baladeuses, dans lequel vous publiez régulièrement, passionnément, des portraits de fleuristes, de barbiers, de souffleurs de verre, et j'en passe. Bonjour Emmanuel Magnan.
Bonjour.
Vous revenez de Rungis, je crois, en région parisienne.
Tout à fait.
Vous étiez tôt ce matin. Vous avez cofondé Pampa, un studio de création florale. Vous livrez notamment des bouquets à vélo. Rien ne vous y prédestinait, vous qui avez fait une école de commerce, travaillé en agence de communication. On reviendra sur votre parcours, et bonjour Anne Bocry.
Bonjour.
Vous êtes coach en développement personnel et professionnel à Paris, vous êtes prête à nous donner tous vos conseils pour changer de travail si cela s'avère nécessaire, et vous travaillez notamment pour le site nouvellevillepro.fr. Nous serons en ligne un peu plus tard dans l'émission avec Mickaël Mango, docteur en économie qui dirige l'Institut de l'économie du bonheur et qui publie le livre Le boulot qui cache la forêt, boulot B-O-U-L-O-T. Et vous, les voisins, les voisines, êtes-vous heureux dans votre métier? L'avez-vous choisi par passion ou par pragmatisme? Et avez-vous envie de changer aujourd'hui pour renouer avec ce qui vous semble essentiel? On attend vos témoignages dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. 33 1 84 22 71 71. Et puis vous nous écrivez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, on vous attend. Et Jacques nous écrit depuis Tananarive. Beaucoup de jeunes malgaches exercent des métiers qui ne leur conviennent pas, qui ne correspondent pas aux études qu'ils ont faites, tout ça pour ne pas être au chômage. Gilon nous écrit lui depuis Kinshasa. Je suis étudiant en dernière année de licence en agronomie pour devenir agriculteur. Je l'assume, certes ce n'est pas un métier de rêve, mais bon, c'est le contexte du pays qui veut ça. Et puis, je suis encore jeune. Mais les voisins, vous êtes aussi nombreux à être satisfaits de votre métier, notamment des enseignants comme Moussa à Niamey qui a suivi la voie de son père. Et puis on a aussi de nombreux journalistes comme Méfis à Abomey au Bénin ou Daniel à Kinshasa qui nous dit « Je suis journaliste, je dirais que ce métier est une partie de moi. Petit, j'écoutais beaucoup la radio et voilà, s'il fallait reprendre le monde autant de fois, je resterais journaliste. » Et puis Fatoumata nous écrit depuis le Lac Rose au Sénégal « J'aurais bien aimé être exploratrice, mais par nécessité j'ai fait des études de pédagogue en France. Les études étaient payées à l'époque. » Mais j'aurais dû me mettre à mon compte, comme jardinière, comme bergère, comme vigneronne, pour être plus à l'extérieur. Mais je n'ai pas de regrets. Maintenant que je suis à la retraite, je ne fais que ce que j'aime.
Soyons honnêtes pour une fois. Être heureux, tout le monde est pour. Travailler, on ne préférerait pas.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Bon, alors on est quand même obligé de travailler, malheureusement, aux dernières nouvelles. On n'appelle pas encore la révolution dans 7 milliards de voisins. Magali Peruffini, qu'est-ce qu'on entend derrière cette idée de sens au travail? Qu'est-ce que ça veut dire?
Je pense qu'il y a la question de ce à quoi on a envie de contribuer, quelle est notre place dans la société. Et puis derrière, il y a la notion de l'épanouissement professionnel. On touche là la notion aussi de la vocation. La vocation qui vient du mot vox, qui signifie la voix qui appelle. Donc il y a quelque chose voilà, qui touche à notre être vraiment profond et ce à quoi on a envie de passer nos journées pour à la fois y prendre du plaisir et servir aussi les autres.
Et cette question du sens, on se la pose plus aujourd'hui, plus qu'avant ?
Oui, j'ai la sensation qu'on se la pose plus aujourd'hui qu'avant. Le travail, il y a quelques années encore, était relié au confort de vie, à un salaire. Aujourd'hui, il y a derrière le travail, il y a aussi la notion, encore une fois, de l'épanouissement professionnel. C'est aussi quelque chose qui peut nous permettre de nous réaliser en tant que personne.
Et pourquoi vous avez voulu donner la parole à des nouveaux artisans ? Qu'est-ce qui vous intéresse chez eux ?
Alors déjà, il y a plein de belles valeurs que j'ai envie de défendre à travers eux. Des valeurs de simplicité, d'authenticité, de créativité, de réalisation de soi. Et puis ce sont des personnes qui ont des parcours que je trouve très inspirants, notamment toutes les personnes qui se sont reconverties dans les métiers manuels. Ce rebasculement-là vers les métiers manuels dit aussi quelque chose de notre société. Et c'était aussi ça qui m'intéressait, aussi bien en tant que travailleur, qu'en tant que consommateur, à quoi on aspire aujourd'hui dans la société, quelle société on a envie de construire et à laquelle on a envie de contribuer.
Et vous aussi, d'ailleurs, vous vous êtes reconvertie professionnellement ?
Oui, tout à fait. J'étais chef de projet en agence de communication et j'ai quitté le confort de vie, le salaire, la sécurité il y a quelques années pour aller rencontrer des gens, raconter des histoires, parce que c'est ce que j'aime faire.
Alors tout de suite, reportage. Deux sœurs ont franchi le pas ensemble de la reconversion professionnelle. Alexandra et Natacha, la trentaine parisienne, jeune maman, ont redonné vie à la Pelucherie à Paris, l'entreprise de leur grand-mère. Un virage tout en douceur, c'est l'idée de l'une d'entre elles. Notre reporter Alice Milo est partie à leur rencontre au milieu des ours en peluche.
Alors, hop, tiens, attrape ça. Merci.
Donc, l'idée, c'est de lui mettre le petit hippopotame dans la pochette.
Attends, je vais aller chercher le gros ours.
On est dans notre showroom. C'est l'endroit où on reçoit nos clients pour présenter la collection.
C'est assez rigolo parce qu'en fait, on dirait que c'est un appartement où vivent des peluches, hein, puisque donc il y a des ours qui sont sur le canapé, il y a un hippopotame qui est assis sur le fauteuil.
Oui, et il y a même, comme vous voyez, la petite ma girafe Zoé qui trône sur la table basse.
Notre grand-mère avait un magasin de peluches sur les Champs-Élysées dans les années 80. Et avec ma sœur, on a décidé il y a un an et demi, deux ans, de relancer la fabrication de peluches en Italie, dans le même atelier qui travaillait déjà à l'époque avec notre grand-mère, et de rééditer certains modèles pour pouvoir relancer l'aventure qui était complètement...
À l'abandon, en fait.
À l'abandon, et qui avait complètement disparu. Alors moi, j'ai le souvenir que tous les mercredis, en sortant de l'école, on allait dans la boutique de notre grand-mère. On était toujours émerveillés par cette nouvelle vitrine où elle arrivait à créer un univers. Et nous, en fait, on se cachait dans la boutique et on jouait à la marchande. On essayait, j'inventais des clients imaginaires et j'essayais de leur vendre. C'est des peluches qu'on garde toute sa vie, qu'on peut avoir quand on est tout petit. Et souvent, on a ces retours des clients, des gens qui nous disent « Ah ben les peluches de la pelucherie, je les ai eues quand j'étais tout petit et je les ai encore maintenant ».
Nous, effectivement, on vend sur notre site internet, donc sur lapelucherie.com, mais on a également quelques points de vente donc dans Paris, mais également en province.
Reprendre la pelucherie de votre grand-mère, c'était une reconversion professionnelle pour vous deux. C'était quoi votre vie d'avant ?
Moi, par exemple, j'étais avocate. J'ai travaillé pendant deux ans en cabinet d'avocat. Je faisais tous les jours la même chose. J'étais assise derrière un bureau. Alors peut-être que j'ai pas fait assez de contentieux, peut-être que je sais pas. Mais j'avais vraiment le sentiment de traîner des pieds pour aller travailler. C'est-à-dire que le matin, je me disais encore, je vais toujours faire la même chose, toujours rédiger des assignations, toujours rédiger des conclusions. En fait, je vais refaire tout le temps pareil. Et j'avais plus envie de cette routine, de refaire tout le temps la même chose, de rédiger des courriers. Enfin, c'était vraiment très rébarbatif.
Alors moi, je faisais du marketing automobile pendant 10 ans. J'ai fait une école de commerce. C'est vrai que assez rapidement, j'ai senti que j'étais pas à ma place, que j'étais pas dans mon rôle, enfin que je n'exploitais pas, si vous voulez, mon plein potentiel. C'est pareil, je voulais donner un sens à ma vie, dans le sens où je voulais vraiment, je me suis dit, on passe tellement de temps au travail qu'il faut vraiment être passionné par ce qu'on fait, parce qu'il faut qu'on ait envie de rentrer de vacances pour aller travailler, il faut qu'on ait envie de finir le week-end pour aller bosser, parce que sinon, tu passes ta vie à traîner des pieds et à attendre ta retraite. J'avais vraiment vraiment envie de me battre pour mon quotidien en fait. C'est très dur au quotidien, on doit apprendre plein de choses. C'est vrai que pour le coup, voilà, il n'y a pas de frustration, c'est très complet. C'est-à-dire qu'il faut créer notre marque, créer notre univers, trouver nos fournisseurs, acheter, vendre. Enfin voilà, il y a vraiment tous les métiers, apprendre à gérer une entreprise. Et les difficultés, c'était plus peut-être de se lancer au départ. C'est-à-dire que une fois que tu t'es dit, bon, allez, je me lance, après, il y a la réalité qui arrive et vraiment tout à mettre en place. Et c'est là où il faut balayer ses peurs, balayer aussi les remarques des autres personnes, de l'entourage, que ce soit nos maris, nos familles, nos amis, qui forcément ont aussi peur pour nous. Et les peurs, c'est effectivement aussi la peur de l'échec, que si ça ne marche pas, bah, qu'est-ce qui va se passer ?
On a déjà doublé notre chiffre d'affaires par rapport à la première année, on commence à se faire connaître de plus en plus, on a des clients récurrents, donc ça c'est très important, et les gens sont très contents.
Nerveusement, c'est beaucoup plus prenant qu'avant. Voilà, après, c'est plus de plaisir parce que effectivement, ça correspond plus à ce que je voulais. Mais si vous voulez, c'est un bon stress qui me nourrit tous les jours. Donc voilà, même voilà, quand on a fait nos bébés, même enceinte ou une semaine après avoir accouché, hop, on se remet au boulot, mais on n'a pas cette impression de sacrifice de vie privée.
Je pense que, et pour nos maris et pour nos enfants, enfin moi, petite encore, mais je pense que de sentir qu'on va bien et qu'on est beaucoup plus heureuse et beaucoup plus épanouie dans notre travail, c'est hyper important. Parce qu'en fait, ça veut dire que c'est plus vraiment la quantité, mais la qualité du temps qu'on passe avec les personnes.
Enfin, moi, personnellement, je suis plus fière de ce que je fais tous les jours. Donc, si on me demande ce que je fais, je suis heureuse de parler de mon travail. Alors qu'avant, si vous me demandiez de parler de mon travail, je vous en parlais, mais voilà, j'avais rien qui m'animait à l'intérieur.
Emmanuelle Magnon, vous voulez réagir ? La trajectoire de ces deux sœurs reconverties dans la peluche évoque la vôtre ?
Oui, oui, je me reconnais totalement dans le discours de ces deux sœurs sur plusieurs points. Le fait déjà de trouver une activité dans laquelle on a vraiment envie de s'investir au jour le jour. Moi, avant, j'étais chef de projet en agence de communication également.
Après une école de commerce.
Après une école de commerce. Ça m'a beaucoup apporté. J'ai adoré ce que j'ai fait pendant les premières années. Et au bout d'un moment, j'ai eu envie de aussi faire autre chose. Parce que je pense que j'avais fait le tour de la question et j'avais envie d'avoir quelque chose qui m'anime vraiment au quotidien. Et j'ai trouvé cette vocation par hasard, en fait, en faisant une couronne de fleurs pour un anniversaire. C'est là où je me suis rendu compte que c'était vraiment ça que j'avais envie de faire, travailler dans la fleur. C'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Et à ce moment-là, je me suis dit, on n'a qu'une vie, on ne peut pas perdre son temps à faire quelque chose dans laquelle on n'est pas complètement épanoui. Et puis, c'était aussi à un moment, c'était au moment des attentats, il y avait plein de choses à ce moment-là qui m'ont poussé à me dire qu'il ne fallait pas que je perde mon temps.
Et, vous avez hésité à un moment avant de vous lancer ?
Forcément, on se pose la question parce que c'est changer complètement de vie. Après mon école de commerce, j'ai poursuivi mes études, donc j'ai un bac plus 6, j'avais un CDI en agence, dans une grande agence de communication, donc un confort. Et forcément, on se pose la question, mais je me la suis pas non plus posée trop longtemps parce que justement, j'avais ce projet en tête, un projet très construit. J'avais eu la rencontre avec mon associé, donc on était... c'était très clair en fait ce qu'on voulait faire, donc pas le temps de trop hésiter non plus, surtout que par rapport à ce qu'on voulait lancer, fallait pas non plus trop attendre.
Et vous êtes donc lancé il y a un an avec donc Pampa, studio de création florale. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis ? Votre rythme de travail, j'imagine, il faut se lever tôt pour aller à Rungis comme ce matin ?
Oui, alors en effet, là, le mardi, je me lève à 3h du matin. J'ai des très très grosses journées. Pour acheter des fleurs, ce qui est quand même assez cool en soi. Et en fait, c'est vrai que en tant que chef d'entreprise, ma vie professionnelle ne s'arrête jamais. Vie Pampa, du matin jusqu'au soir, j'en rêve la nuit, enfin forcément je suis hyper investie. Y a ça, c'est vrai qu'avant en agence de communication, j'étais quand même dans un gros rythme très soutenu, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que là, je m'en rends même pas compte, parce que c'est ma vie, c'est mon projet, je suis tellement passionnée que je le ressens pas comme avant, où j'avais quand même une amplitude horaire très importante, mais où finalement je m'y retrouvais moins. J'ai retrouvé moins d'avantages parce que ce que ça m'apporte aujourd'hui, ça me permet de vraiment m'investir sans, Sans compter les heures. Sans compter les heures, évidemment.
Et en termes de salaire, puisque la question se pose, est-ce que vous gagnez moins qu'avant ?
Je gagne un peu moins qu'avant, mais c'est, l'écart n'est pas non plus énorme. Parce qu'on a réussi là, au bout d'un an... un an presque et demi, on se salarie maintenant, donc voilà, finalement l'écart n'est pas si énorme, donc aucun regret.
Anne Beaucry, parmi les personnes que vous accompagnez en tant que coach dans leur reconversion professionnelle, quel questionnement vous retrouvez en général ?
Alors en fait, les personnes qui viennent nous rencontrer, nous les coachs, on les prend très en amont de la mise en action. C'est-à-dire que on agit sur, comme je disais, sur la mise en action. C'est-à-dire les gens arrivent et on leur apprend déjà à s'autoriser à rêver et à rêver grand. Parce que souvent, les personnes, via les peurs, etc., ont tendance à rêver petit, ne s'autorisent pas à faire des grands projets parce que ça fait peur et c'est tout à fait normal. Donc l'idée, c'est de repérer un petit peu tous ces freins. Lever ses freins petit à petit sur ses peurs, pour voir aussi si, comme on dit dans notre jargon, vérifier l'écologie, ça veut dire si l'entourage est OK, si la personne est entourée, si elle est supportée. Parce que c'est vrai que dans un couple, en imaginant que quelqu'un veut changer de travail et que le mari ou la femme ne soit pas d'accord, ça devient beaucoup plus difficile. Et ça m'amuse parce que les témoignages que je viens d'entendre, j'entends ces deux sœurs avec la pelucherie qui, quand elles étaient petites, elles se voyaient en train de jouer à la marche avec leurs peluches, etc. Voilà, Magali et Emmanuel.
Et puis elles se sont éloignées de ce rêve-là, en fait.
Voilà. Et bon, je dirais ne rêver et puis voir ce qui est possible. Qu'est-ce qui est possible ? Et se donner un objectif, ça c'est très important. Pas dire un jour je changerai de travail. À un moment, se donner une date. Carrément une date, voire 6 mois, voire 1 an, mais cette date vous sert de repère. Et parce que quand les gens que je reçois, quand ils viennent me voir, c'est qu'ils ne sont plus du tout heureux au travail. Ils sont complètement frustrés, il y a un gros malaise.
Et donc il faut oser se lancer.
Voilà, qu'on connaît tous dans notre environnement.
Magali Perruchini, vous avez rencontré différents types de profils, de nouveaux artisans, des cadres expérimentés qui ont donc opéré une reconversion après un déclic, mais aussi des chanceux qui sont animés depuis l'enfance par une vraie passion, qui ont eu la chance de ne jamais se poser de questions. C'est le cas du souffleur de verre franco-américain Jeremy Maxwell Wintrebert. Écoutez-le dans l'émission Quotidien sur la chaîne française TMC.
Je suis passionné à l'idée de fondre le verre. Je pense que ce qui m'attire le plus, c'est le côté hyper délicat, mais aussi très dangereux. C'est la transparence, c'est la matérialisation de la lumière. Enfin, en bref, c'est de jouer avec de la lave, quoi, toute la journée. Je travaille une matière qui est amorphique à la base, qui n'a pas de forme et qui est à 1200 degrés. Et en fait, dès le moment où on commence à accueillir la matière, elle est incroyablement attirante.
La matière qui captive. Qu'est-ce qui vous a marqué chez lui, Magali Perruchini, chez ce souffleur de verre ?
Alors, déjà son travail en lui-même, c'est un métier extrêmement physique, qui demande une hyper-concentration. Et c'est très très beau à voir, c'est vraiment un des savoir-faire qui m'a le plus ému. Et puis surtout, la manière dont il parle de sa matière. Et son métier, pour lui, a une fonction cathartique. Ça l'a aidé, ça l'a soutenu parce qu'il a eu un parcours de vie assez compliqué et son métier lui a vraiment donné une ligne de mire et ça lui a permis de tenir. Et il dit tous les jours, quand je travaille ma matière, je jette au four toutes mes colères, tout ce qui me hante, et à la fin, au final, j'arrive à en faire quelque chose de beau.
Et il y a aussi l'envie chez lui de laisser une trace. C'est le cas aussi d'un cadreur que vous avez rencontré, un cadreur donc qui fabrique des vélos sur mesure à Paris, qui vous a dit « c'est une joie presque enfantine et une grande satisfaction de pouvoir dire « c'est moi qui l'ai fait ». C'est ça aussi que recherchent ces nouveaux artisans ?
Mais c'est ça aussi, oui, et c'est pourquoi souvent ils se reconvertissent, c'est-à-dire qu'on évolue beaucoup dans une société où on traite, où on gère de l'information, où on est un peu dans une société de l'immatériel, et l'artisanat permet de revenir à la matière et à quelque chose de concret. Souvent on me dit, j'ai eu besoin de me reconvertir parce que j'avais un besoin de sens, mais aussi un besoin de revenir au concret. Et l'artisan peut concrètement voir à la fin fin de sa journée, ce qu'il a créé. Et l'artisan peut à la fois utiliser, enfin allier l'esprit pour penser, l'esprit qui crée, et va allier aussi la main qui façonne. Donc il y a un vrai retour, au concret. Et ce qu'ils aiment aussi beaucoup, c'est de pouvoir gérer la chaîne de production de A à Z.
Les voisins, les voisines, vous nous appelez pour tous vos témoignages au 33 1 84 22 71 71. 33 1 84 22 71 71. Et on va accueillir un voisin dans un instant.
7 milliards de voisins.
Qui refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Bonjour Élie.
Ok. Bonjour.
Vous êtes à Kisangani en République démocratique du Congo. On vous écoute Élie. Vous avez 23 ans.
Oui. Oui, effectivement.
Et vous êtes étudiant en médecine.
Justement.
Alors, on vous écoute.
Oui, justement, en rapport avec le thème qui a été choisi pour l'émission, j'ai bien expliqué mon point de vue. Au départ, ce n'est pas mon souhait de pouvoir faire la médecine, mais une fois après avoir décroché son diplôme d'État, bon, on ne savait pas quoi faire, on a regardé la situation du pays, et nous avons dû remarquer même que ceux qui faisaient la médecine, bon, même s'ils ne vivaient pas forcément dans l'abondance, mais quand même, c'était des gens qui pouvaient facilement trouver quelque chose dans le marché d'emploi, ce qui déjà n'était pas facile avec les autres domaines d'études. Et c'est comme ça que nous sommes parachutés à médecine. C'est quelque chose de pas volontaire au début, mais avec le temps, nous avons vraiment appris.
Vous êtes passionné pour ce métier, finalement, vous qui êtes interne en sixième année aujourd'hui.
Oui, effectivement, je suis très passionné parce que maintenant, à force d'apprendre de nouvelles matières, je m'y intéresse et je m'efforce toujours de faire le meilleur de moi-même, je me donne et karma, là, je ne peux plus m'en passer.
C'est devenu une addiction, tant mieux, merci, merci beaucoup Élie pour ce témoignage. Anne Bocry, c'est vrai qu'on peut aussi être passionné par son métier sur le tas en fait, après coup, se rendre compte qu'on aime son métier.
Bien sûr, c'est-à-dire que, comme on dit, l'appétit vient en mangeant, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui démarrent un métier d'une manière un petit peu administrative et sans vraiment de passion, et puis en apprenant, elles se rendent compte que, effectivement, il y a des ouvertures dans ce métier qui étaient insoupçonnées avant. Ça s'appelle aussi l'expérience et la pratique. Et du coup, ça vous permet d'aller, comme Élie vient de nous le dire, aller découvrir des choses. Et comme la vie est une aventure, donc on est fait pour aller découvrir des choses qu'on ne soupçonnait pas. Et moi, je vois effectivement, dans les clients, dans les personnes qui viennent nous voir, des personnes qui reconnaissent, du coup, se dire non, finalement, je ne vais pas changer de métier parce que j'y ai trouvé mon compte et j'ai appris d'autres choses.
Magali Perruchini, vous êtes d'accord ?
Oui, je pense qu'on peut effectivement, en découvrant un métier, au final, trouver du sens et du plaisir à ce qu'on fait et aux tâches quotidiennes qu'on doit mettre en place chaque jour. Maintenant, ce qui me paraît aussi important, c'est d'allier vraiment. Enfin, il y a une question aussi de mettre, Anne, tu me diras si tu es d'accord, mais de mettre en place ses talents naturels au service de son activité.
Exactement.
Chaque jour. Donc, trouver vraiment ce pourquoi on est fait et trouver du sens dans ce qu'on fait.
Parce qu'on n'a pas tous non plus les compétences manuelles pour devenir artisan, par exemple.
Alors, il y a une différence entre talent et compétence. Le talent, c'est quelque chose qu'on va faire naturellement. La compétence, c'est quelque chose qu'on va. C'est un savoir acquis. Donc il y a une différence à faire là-dessus.
Qu'on peut apprendre comme vous l'avez fait.
Oui, moi forcément, je me suis lancée dans ce métier en passant par la case formation. Je ne pouvais pas me lancer sans le faire. J'ai fait une formation très courte de un mois, très intensive, mais qui m'a permis d'acquérir les bases indispensables à ce métier. Et ensuite, c'est... la créativité, l'inspiration, on apprend énormément sur le théâtre aussi en faisant. C'est hallucinant la capacité de l'être humain, enfin qu'à l'être humain pour s'adapter, à s'adapter à des nouvelles nouvelles choses, à créer ses propres compétences aussi en le faisant. Donc moi j'ai énormément appris en un an et demi.
Et vous allez continuer d'apprendre.
Et ouais, évidemment.
Les voisins, les voisines, vous restez avec nous et surtout vous nous appelez. Je vous redonne le numéro 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Ouais, 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Oui, Zolo.
Soyez les bienvenus.
Oh, 7 milliards de voisins, comment trouver du sens dans son travail? Pourquoi avoir de l'impact dans ce que l'on fait nous semble-t-il aussi important? Des questions auxquelles nous tentons de répondre avec nos invités. Elle a une passion, les passionnés, notamment ceux qui aiment fabriquer de leurs mains. Magali Peruccini publie aux éditions Erol le livre « Nouveaux artisans, portrait d'une génération qui bouscule les codes ». Avec nous également Emmanuel Magnan, diplômé d'école de commerce, passé par une agence de com. Et aujourd'hui, le nez dans les fleurs. Et puis Anne Beaucry, coach en développement personnel et professionnels à Paris. Alors, selon une étude récente de l'Ipsos, 7 jeunes Français sur 10 cherchent un métier en phase avec leurs valeurs. Et le journaliste français Jean-Laurent Casly s'est penché pour un livre sur la révolte de ces premiers de la classe, ces diplômés qui en fait quittent leur emploi de cadre dans des métiers dits plutôt intellectuels pour des activités plus concrètes.
Souvent, ils me disent « je ne vois pas à la fin de la journée ce que j'ai fait. Je ne peux pas le toucher, je ne peux pas le prendre en photo, je ne peux pas le montrer, l'expliquer à mes amis. Ma famille, je ne peux pas exprimer ce que je fais. » Et du coup, ils sont assez nombreux à souffrir de ça, d'avoir ce sentiment, encore une fois, de déconnexion. Ce qui est assez paradoxal à une époque où tout le monde est connecté, notamment dans son travail, dans son quotidien professionnel. Je pense que l'erreur, ce serait de croire que c'est une fuite et un abandon. Je pense que les néo-artisans sont plutôt des gens qui inventent quelque chose. C'est-à-dire qu'ils sont en rupture, certes, mais ils sont aussi dans l'invention d'un nouveau modèle.
RFI, on est ensemble.
L'invention d'un nouveau modèle. Et pourtant, les métiers de l'artisanat, Magali Peruccini, sont traditionnels. Ils ont une longue histoire en France et ailleurs. Il y a pourtant une vraie réinvention ?
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que l'artisan s'appuie sur des savoir-faire et des pratiques parfois millénaires. Et c'est ça aussi qui m'intéressait dans le livre, c'était de savoir comment on fait pour être artisan et inscrire quand même son activité dans la modernité. Et effectivement, il y a tout un tas d'artisans, qu'ils soient reconvertis ou non, hein, qui innovent dans les métiers de différentes manières. Vous allez avoir un plombier qui va se déplacer en vélo.
Un cycloplombier, comme vous l'écrivez dans le livre.
Voilà, le cycloplombier en vélo cargo. Il y a une manière aussi de communiquer. Ils sont au fait des pratiques sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc il y a beaucoup d'artisans, de nouveaux profils qui bousculent un peu les codes à la fois de leur métier, mais à la fois de la société, parce qu'ils ont décidé de réinvestir des métiers qui ont longtemps été dénigrés et qui bousculent les codes dans le sens où ils réinventent un peu le modèle de la réussite.
Peut-être parce qu'ils ont eu aussi tout un questionnement en amont avant de se reconvertir pour certains.
Oui, ils ont pu effectivement se poser les bonnes questions, se donner surtout des réponses et prendre des risques. Donc c'est sûr que dans leur métier, en plus aujourd'hui, ils peuvent s'appuyer sur leurs compétences qu'ils ont acquises dans leur ancienne vie professionnelle pour les mettre au service de leur nouvelle vie professionnelle.
Les voisins, les voisines, vous continuez de nous appeler. Nous sommes en ligne avec Malolo à Pointe-Noire. Bonjour Malolo.
Bonjour Charlie, bonjour les voisins.
On vous écoute Malolo.
Alors, moi, dans mon cas, en fait, je suis au Congo-Brazza, je suis commercial. Je peux dire que je suis tombé dedans comme ça, tout à fait par hasard, parce que j'ai une base littéraire au lycée, donc rien ne me prédestinait à devenir commercial. Donc, c'est un métier que j'aime parce qu'il me permet de rencontrer des gens et de beaucoup voyager. Mais par-dessus tout, il y a autre chose qui me passionne dans mon travail. J'ai même pour cela créé une page Facebook que j'ai appelée « Le travail est précieux » qui me permet de partager avec beaucoup d'autres personnes la passion pour le travail, bien faire son travail, aimer son travail et accessoirement également quelques photos d'humour pour essayer d'éduquer tout en rigolant. Voilà, c'est un peu ça ma passion.
D'accord, et donc aujourd'hui vous êtes plutôt passionné par votre métier, j'ai l'impression.
Exactement, voilà, passionné par le métier, pour ce qui me permet de voir, de rencontrer. Et puis voilà, c'est des belles expériences, c'est très belles expériences.
Et c'est intéressant cette page Facebook que vous avez créée, Le Travail est précieux. Quel témoignage est-ce que vous recueillez sur cette page, par exemple ?
Alors, ça me fait plaisir de voir des personnes de temps en temps m'écrire en me disant merci parce que vous publiez des offres d'emploi, vous nous faites quelques rappels, ça nous fait du bien. Parce que c'est toujours triste d'avoir des personnes qui se battent, qui se tuent pour chercher du travail. Et une fois qu'ils ont du boulot, ils viennent en retard, ils négligent leur travail, ils s'absentent tout le temps. Et avec ça, on essaie de mettre un peu de l'humour, de rappeler aux gens, chercher du travail, c'est très bien. Mais se battre pour le conserver et bien le faire, c'est peut-être encore mieux. Voilà. Et les gens apprécient.
Merci beaucoup Malolo pour ce témoignage. Les voisins, les voisines, vous continuez de nous appeler pour vos témoignages et pour vos questions si vous en avez. Quel regard portez-vous sur votre travail? Est-ce qu'il vous plaît? Et puis quels critères sont importants pour vous dans le choix d'un métier? On vous attend.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins, on est entre nous là, entre les voisins, hein?
Et nous sommes en ligne avec Mickaël Mango, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en économie, vous dirigez l'Institut de l'économie du bonheur et puis vous publiez le livre Le boulot qui cache la forêt, boulot B-O-U-L-O-T, avec un petit jeu de mots. Alors, quelle question faut-il se poser, selon vous, pour savoir si on aime son travail et si on doit ou non en changer?
Déjà, on peut se poser la question de son niveau de satisfaction au travail, donc se questionner, donner une note de 0 à 10 à son travail et le faire assez régulièrement pour voir si cette note de satisfaction est élevée ou pas. Après, on peut se poser la question de savoir si on se sent engagé dans son travail, est-ce qu'on y met du cœur, est-ce qu'on est concentré sur ce qu'on fait quand on est à son poste, est-ce que c'est important pour nous ce qu'on est en train de faire, est-ce que ça épouse nos valeurs, est-ce que ça rentre bien en compte dans notre identité personnelle? Il y a plein de questions à se poser.
Et à partir de quel moment faut-il envisager de changer de travail?
Déjà pour moi, le changement est la solution radicale qui vient uniquement à la fin d'un processus. D'abord, il faut vérifier qu'on a exploité toutes les ressources qui étaient dans son emploi pour bien vivre son emploi. Et ça, ce n'est pas un exercice que les gens font facilement. Un emploi est un ensemble de ressources personnelles, financières, techniques qui nous permettent de mieux vivre notre emploi et de mieux s'épanouir dans notre emploi. Donc, il faut vérifier vraiment que tous les leviers ont été actionnés avant de passer à un autre emploi.
Et vous conseillez par exemple de changer d'employeur ou alors de choisir le temps partiel si c'est possible, hein, de passer moins de temps au travail?
Ça dépend là. Vraiment, le temps partiel, dans les études d'économie du bonheur, le temps partiel n'est pas forcément un levier très fort vers le bonheur, tout dépend s'il est subi ou choisi. Donc la personne qui vraiment veut construire sa vie à partir de différents pôles pourrait gagner au temps partiel, mais la personne qui a besoin d'une carrière réussie pour se sentir exister, elle, en pâtirait du temps partiel.
Et vous évoquez un mot qui revient de plus en plus souvent, on parle des slasheurs. Les slasheurs, ce sont ceux qui cumulent plusieurs activités professionnelles. Alors comment l'expliquer et l'avenir est-il aux slasheurs aujourd'hui?
Alors comment l'expliquer? Parce que les gens veulent énormément de choses dans leur travail. Ils veulent à la fois des récompenses du travail, le statut qui va avec, l'argent. Et puis ils veulent que le contenu épouse vraiment leur personnalité, leur centre d'intérêt. Et puis ils veulent aussi vivre de bonnes relations sociales au travail. Du coup, dans un seul et même emploi, trouver tout ça est très difficile, voire impossible. Et la pluriactivité peut être la solution. Après, vous dites qu'on en entend beaucoup parler aujourd'hui, c'est vrai, mais est-ce que c'est moderne? C'est loin d'être sûr, puisque avant le salariat, c'est-à-dire avant le début du 19e siècle, la plupart des gens étaient des pluriactifs, des slasheurs. Et donc là, on redécouvre une forme d'emploi qui était très classique jusqu'à l'avènement de la société salariale.
On y revient. Et en fait, ce que vous écrivez, c'est que la solution passe souvent par des évolutions microscopiques au sein de son travail, plutôt que d'en changer radicalement.
Oui.
Par exemple, concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans son travail pour mieux le vivre?
Ça s'appelle le façonnage du travail. Le façonnage du travail, ça peut être un façonnage du contenu de son travail, des relations sociales au travail ou des représentations qu'on a de son travail. Donc le façonnage du contenu, ça va être d'essayer de passer plus de temps sur les tâches qu'on aime bien faire, voire demander davantage de tâches qui nous seraient gratifiantes. Le façonnage relationnel, c'est d'essayer de passer du temps avec les collègues qu'on aime bien, soit en allant juste les voir et en prenant rendez-vous à la machine à café avec eux, soit en demandant à travailler sur des projets avec eux. Et puis enfin, il y a la façon dont on se représente son travail. On peut essayer de redonner du sens à son travail en essayant de voir comment il se connecte à nos valeurs, comment il nous permet d'impacter le monde, d'impacter nos collègues. comment il permet d'acquérir de nouvelles compétences et du coup de grandir. Il y a plein de façons de redonner du sens à son travail.
Enchanter son travail sans en changer nécessairement, c'est ce que vous nous conseillez. Merci Mickaël Mango. Je rappelle que vous publiez le livre Le boulot qui cache la forêt. Anne Bocry, est-ce que vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit?
J'ai beaucoup aimé ce que je viens d'entendre parce qu'effectivement, ça rejoint l'idée de mobiliser un petit peu, repérer, mobiliser ses forces, s'appuyer dessus pour redonner du sens au travail, tout ce qui est co-création avec les collègues, aussi partager son savoir, recréer un lien avec les personnes qui vous entourent, et puis vraiment, oui, comme disait la personne juste avant,
Mickaël Mango,
après avoir exploré toutes ces pistes-là, et il y a beaucoup de choses à faire, arriver au point où, effectivement, là, peut-être se remettre en question, se poser, et recommencer à rêver, et recommencer.
Ce n'est pas une décision à prendre à la légère, en tout cas.
Absolument.
Comment trouver du sens à son métier pour ne plus compter ses heures? Travailler plus, c'est de trio et c'est tout de suite sur RFI.
On n'a pas voté pour travailler plus. Je pensais avoir gagné mes 35 heures. Dur labeur que l'usine ou d'être ramoneur. Je suis le monde ouvrier, je suis l'agriculteur. Pas peur de travailler, marre d'être mal payé. Je pensais avoir gagné mes 35 heures. Je suis l'infirmière, je suis l'instituteur. 40 élèves par classe, les urgences qui n'ont plus de place. Les heures sup, ça nous connaît. On n'a pas le choix et on les fait. Mais qui a voté pour travailler plus? Pour gagner plus? J'ai pas décidé de travailler plus. Pour gagner. Je pensais que le monde allait changer, que le temps libre être libéré avait son intérêt. Des emplois, des métiers d'avenir, une économie d'écologie et de loisirs. Je pensais que le monde allait changer, que nos conneries nous avaient raisonné, que le partage des bénéfices irait dans le sens de la justice. Y a du vice, je pense trop mais je dois pas être trop con. Je l'ai bien vu le gros bateau qu'a acheté mon patron. Moi je joue au loto, 30 ans de crédit pour ma maison. Et si je lève le gros lot, je crois que j'arrêterai mon boulot. Plus pour gagner plus, j'ai pas décidé de travailler plus. Je pensais avoir milité pour une augmentation. Je voulais pouvoir emmener les gosses au parc d'attractions. Le vendredi après-midi, je faisais les commissions. Et le samedi et dimanche, je m'occupais des rejetons. Je pensais avoir milité pour d'autres horizons. Mais les échanges boursiers sont pas de mon opinion. En vacances, hors de France, le boss et mon patron ont décidé que les heures sup seraient ma destination. Je pense qu'un jour on va tous y venir. Le moment fatal de devoir réfléchir. Si l'homme et le travail sont unis à en mourir, si comme des ânes on va bosser et ne rien dire. Je pense que le boss passe bien à la télé, mais que l'avenir de mes gosses n'est pas dans ses idées. Que le temps, le vent, les amis, l'écologie font partie de la vie et c'est pour ça que j'ai pas choisi.
7 milliards de voisins aujourd'hui, nous parlons d'une question épineuse et pourtant nécessaire. Quel sens donner à son travail? Bonjour Tiburce.
Bonjour Charlie, bonjour à vos invités, bonjour aux auditeurs de
l'univers des voisins. Vous êtes à Libreville, au Gabon. On vous écoute, Tiburce.
Oui, moi, j'ai choisi mon métier par passion. Mais comme ça fait un moment que je l'exerce, pour ne pas que la lassitude s'installe, moi, je regarde comme ça vers d'autres métiers.
Vous êtes conseiller pédagogique actuellement.
Je suis conseiller pédagogique, oui. Maintenant, j'oriente mes formations sur différents types de métiers, celui de l'informatique, précisément dans le développement de logiciels. Et je pense aussi à faire une formation du côté de la gestion des ressources humaines. Parce que je me dis, ce sera un plus pour moi et cela me permettra de pouvoir comme ça développer une envie de faire mieux mon métier. Ce sera un plus pour mon métier actuel. Parce que je me dis, si j'ai reste dans mon habitude, cela risque de me tuer l'envie de continuer à bien faire mon métier. Voilà.
Donc en fait, vous vous formez à l'informatique, mais pour rester conseiller pédagogique, simplement avec de nouvelles compétences.
Toujours, effectivement, toujours dans mon métier, pour un plus dans mon métier, aussi peut-être pendant des moments où je ne suis pas appelé à exercer mon métier, être comme ça, à faire valoir mes compétences dans d'autres secteurs d'activité. Voilà.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que pour vous, en fait, il faut mieux être touche à tout, c'est ça, aujourd'hui. Et donc,
Exactement. Il faut véritablement que le nouveau travailleur comprenne qu'il faut toucher à tout. Mais à ce qui nous plaît. Parce qu'il ne faut pas faire de métier pour le faire. Il faut faire à ce qui vous plaît, à ce qui vous attire, à ce qui peut vous amener à plus à développer des compétences en vous. Des compétences qui est endormies, bien sûr. Voilà.
Merci beaucoup Tiburce pour ce témoignage. Effectivement, là, ce que Tiburce nous raconte, c'est qu'on ne va pas faire certainement le même métier toute notre vie, Anne Beaugry, et donc mieux vaut se former aussi selon ses appétences.
Oui, alors ça, c'est un phénomène que je remarque en ce moment. Je vois par exemple la tranche 30-35 ans, prenons par exemple le profil consultant, qui sont partis dans une filière pour faire plaisir aux parents, à la famille, à eux-mêmes aussi, effectivement, et qui un jour, vers 30-35 ans, s'arrêtent en disant « non ». Ça ne va pas, ça ne plaît pas, c'est quelque chose qui était un peu impensable il y a encore 20 ou 30 ans. Ces jeunes s'autorisent à réfléchir et à vraiment, comme Emmanuel, comme Magali, comme les deux personnes qui sont avec nous aujourd'hui, et qui étaient parties dans des choses complètement différentes, en se disant, oui, qu'est-ce que je veux vraiment ? Alors, c'est sûr que c'est pas facile. Si c'était facile, on le saurait. Une fois que vous avez identifié un petit peu vos peurs, alors pour ça, parlons très concrètement, vous prenez un papier et un crayon et vous écrivez tout ce qui vous fait peur. Je vais gagner moins d'argent, combien de temps je peux tenir sans travailler, pour soit me reformer, soit trouver ma voie. Oui, mais ça a déjà été fait, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Tout a déjà été inventé. Voilà, vous écrivez, alors la liste est souvent très longue, et ensuite vous les reprenez une par une, et soit accompagné, soit seul, vous commencez à vous poser les vraies questions. Pourquoi j'ai écrit ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est vraiment vrai? Etc, etc. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est comme je disais tout à l'heure, se fixer un objectif qui n'est peut-être pas très clair au départ, mais au moins une date d'objectif. Je donne ma démission à ce moment-là, j'ai mes 3 mois, se faire un calendrier de l'avancée, de qu'est-ce qui va se passer dans le futur.
Donc poser les choses sur papier, ça
absolument,
c'est important.
Absolument, c'est très important, sinon il n'y a pas de fin. Sinon vous pouvez vous retrouver dans 3 ans en disant je suis mal dans mon travail et je veux partir.
Est-ce que se poser la question du sens de son travail n'est pas permis seulement à une frange limitée de la population, à une élite en fait qui peut se le permettre, qui peut se permettre de prendre de tels risques, Emmanuel Magnan?
Moi je dirais que... Enfin, on peut se poser la question, je comprends pourquoi vous la posez dans ce sens-là. Après, c'est aussi une question d'organisation. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir des ruptures conventionnelles qui sont mises en place. Moi, ça a été le cas. Donc, ça m'a permis d'avoir une assise financière. Mon associé, c'était la même chose. On n'avait pas forcément derrière un background qui pouvait nous permettre de prendre cette décision tranquillement. Donc, c'est aussi une façon de s'organiser pour pouvoir assurer ses arrières et le faire. Mais c'est sûr que forcément, c'est des choix de vie, c'est dire non à certaines choses et faire des sacrifices. Ça, c'est forcément l'intégrer, quoi.
Magali Peruchini.
Oui, il y a une notion de prendre un risque, de faire un choix et de fait de laisser mourir quelque chose, mais pour aussi donner vie à quelque chose d'autre. On se cache beaucoup derrière des peurs et aussi des excuses. Je pense qu'effectivement, c'est peut-être plus facile pour certains qui ont peut-être de l'argent de côté, qui ont peut-être un conjoint ou une conjointe qui peut les soutenir dans ce moment-là. Et que c'est peut-être plus facile de le faire à 30 ans célibataire qu'à 45 avec 4 enfants, c'est certain. Mais je pense qu'il faut savoir aussi quand même se poser les bonnes questions et prendre ce risque-là. Et ça, c'est donné à tout le monde d'aller vers son rêve et de les réaliser.
Et en tout cas, d'y réfléchir. Et si nous devions conseiller un adolescent ou une adolescente en plein doute sur son orientation professionnelle, qu'aurions-nous envie d'écrire ? Sarah Roubateau, blogueuse et anthropologue, a voulu tenter l'exercice. Elle a écrit « Lettre à un ado, trouve le verbe de ta vie, ouvrez grand vos oreilles ».
Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?
Voilà des années qu'on te pose cette question. Et pour celui qui te la pose, cela ne se réduit qu'à une seule chose, ton métier. On te demande quel métier tu veux faire sans même t'avoir présenté toutes les possibilités, puisque voilà 10 ans qu'on t'enseigne les mêmes matières à l'école. Moi, j'aurais une autre question à te poser. Quel est le verbe de ta vie ? Pas le métier, non, le verbe. Si le verbe de ta vie, c'est aider, tu pourras autant être avocat, médecin urgentiste ou travailler dans une ONG. Si c'est transmettre, tu pourras être enseignant, aussi bien que journaliste ou comédien. Veux-tu soigner, guérir, protéger, défendre ? Demain, le métier ne sera pas nécessairement le centre de nos vies. Il faut trouver un métier qui te fasse vivre et qui te laisse vivre. Un métier qui nous laisse le temps d'apprendre, de découvrir, de nous émerveiller, de vivre avec les autres. Un métier qui nous permette d'habiter le temps au lieu de lui courir après.
Une lettre joliment lue par Caroline Fillette. Alors, trouver le verbe de sa vie, ce n'est pas si simple, on l'imagine, Magali Peruscini. Qu'en pensez-vous ?
Oh, je pense qu'au final, on le sait dès qu'on est enfant. Je pense qu'il faut rester connecté à qui l'on est, à l'enfant qu'on a été, et que parfois la société, la famille, l'école nous a fait oublier. Et je pense qu'il faut savoir se reconnecter à notre enfant intérieur.
Emmanuel Magnon, quel est le verbe de votre vie ?
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Magali. Pour moi, c'est créer. Et en fait, quand j'étais petite, j'étais hyper créative. Je voulais être fleuriste quand j'étais en troisième. C'est pas le parcours que j'ai choisi parce que c'était pas forcément le métier dans lequel on avait envie de se lancer forcément. Enfin, à cet âge-là, je n'avais aucune conscience de ce que ça pouvait être. Et finalement, je m'y suis retrouvée. Donc, c'est vraiment créer aussi. Je pense que c'est pour ça qu'on a envie de se reconvertir à un moment donné dans des métiers d'artisanat, notamment.
Et est-ce qu'on n'accorde pas trop d'importance à son travail ? On peut aussi se réaliser à côté de son travail, dans les loisirs. C'est le cas de beaucoup. Le travail n'est pas tout. Magali Peruscini, Juan Bocri.
On y passe quand même beaucoup de temps au travail. Donc si on peut y prendre du plaisir, c'est quand même un plus. Et puis surtout, le travail permet d'avoir sa place dans la société et de contribuer aux côtés de nos contemporains.
Et pour beaucoup, je pense que le travail est leur identité. Donc, quand on change de travail, je rejoins aussi sur le fond de l'enfance, mais il y a quand même une perte d'identité. Les gens vous voient plus de la même manière, vous revoient différemment. Ça, c'est important aussi de le préciser.
Il faut être prêt à changer d'identité.
Savoir ce à quoi vous êtes prêt à lâcher. Sur quoi vous pouvez lâcher. Ça, c'est très important dans la reconversion.
Magali Peruscini.
Je voudrais partager avec les auditeurs une citation de Christophe Vasseur, qui est un ancien commercial devenu boulanger, et qui dit « Réussir, c'est à mes yeux le sentiment d'être à sa place en faisant quelque chose que l'on fait bien et qui est utile aux autres. » Donc il y a une double dynamique, c'est à la fois faire quelque chose qui nous convient à nous, qui est source d'épanouissement pour nous, mais aussi le faire pour les autres.
Merci à vous Magali Peruscini, merci Anne Bocri, merci également à vous Emmanuel merci. Magnon, merci à toute l'équipe
merci.
De 7 milliards de voisins, Romain Dubrac à la réalisation, Cécile Lavolo en coulisses, Sophia Bédard pour vous répondre, les voisins, et merci aussi à Alexandra Sirgan et Victor Hull, merci à vous les voisins, les voisines. Demain, 7 milliards de voisins, violence policière, contrôle d'identité, état d'urgence, dans un tel climat, quel rapport entretenons-nous avec la police et autres figures de l'autorité en France et ailleurs? Pourquoi tant de ressentiments et de colère ? Existe-t-il une vraie haine anti-flic ? Et comment parvenir à un dialogue serein ? À demain les voisins.